Bonsoir, cher ami. On vous retrouve lundi à 20h55. Bonsoir à toutes et à tous. La dispute. Ce soir, la bande dessinée. Ce soir, Antoine Guillot et Joseph Gosne se font face à notre affiche Hergé, l'exposition au Grand Palais, et Patience de Daniel Klaus chez Cornelius. Nous évoquerons aussi plus rapidement Prisonnier des glaces de Simon Roussin chez 2024, et puis Martha et Alan d'Emmanuel Guibert à l'association. Vers 21h20, Lucille Comeau nous entraînera dans son petit salon. Pourquoi ? Mystère, nous le saurons tout à l'heure. Et puis bien sûr, encore des cadeaux à gagner grâce au jeu de la dispute ce soir. Des invitations pour l'exposition House Life jusqu'au 29 janvier au Musée des Arts Décoratifs et de Design de Bordeaux. Et nous ouvrons cette émission nous rendant au Grand Palais, où se tient donc une exposition consacrée à Hergé, le créateur de Tintin, entre autres, mais quand même surtout de Tintin. Les commissaires de cette exposition sont Jérôme Neutre et Sophie Chang, qui proposent donc une monographie de l'auteur, et non sur le plus célèbre de ses personnages, une monographie à rebours. On va parler de ce choix, peut-être discutable, dont nous allons justement discuter. Un peu de Gounod ne fait jamais de mal. Pour entrer dans le Grand Palais ou pas, on y entre avec Antoine Guillot tout d'abord.
Alors, comme vous l'avez dit, exposition à rebours. Donc, moi, je suis rentré en n'étant pas sûr d'être rentré par le bon côté. Je me suis en visite de presse. Donc, on n'était pas aiguillé comme ça, cornaqué, comme on peut l'être quand on y assiste normalement. Donc, je me suis fait confirmer trois fois par trois personnes différentes qu'on commençait bien par cette une.
Vous n'avez pas confiance en votre prochain, Antoine. C'est un problème.
Non, je n'ai pas confiance en moi, car je suis souvent, je me rends compte que je prends moi-même les expositions à rebours. Donc, là, pour une fois, je la prends à rebours, mais c'est comme ça que c'est pensé, si on peut dire. Donc, on commence bien par cette une de Libération qui nous explique que Tintin est mort, donc que Hergé est mort. Alors, ça peut nous dire deux choses. D'une part, que Hergé était une personnalité considérable au moment où il meurt, puisqu'il fait la une des journaux, enfin une demi-une, en fait, plus exactement. Et puis, comme il est mort, on va pouvoir le statuer. Donc, on rentre ensuite dans cette salle, et qu'est-ce qu'on voit ? On voit des peintures. Des peintures de Hergé, donc dont on connaissait des reproductions, mais que personnellement j'en avais vu une parce qu'elle était déjà exposé au Grand Palais dans cette exposition là qui mélangeait un peu tout et qui était plus rigolote d'ailleurs que celle-ci. Mais bref, on rentre avec des peintures, on se dit ah donc c'est une exposition sur un peintre. Je suis un peu bêtement le néophyte, mais cette exposition semblant s'adresser aux néophytes n'est en fait réellement compréhensible pour en comprendre l'impensé et tout ce qu'il y a derrière que par des gens qui connaissent bien.
Je vais demander à ce qu'on prolonge l'émission ce soir si vous voulez pour
mais cette première salle après dit tout, donc c'est important de s'y arrêter, ces deux premières salles. Donc on va nous raconter l'histoire d'un peintre. Et puis on a cet écran de Michel Serres, écran vidéo, qui va donner la légitimité, on va dire universitaire et philosophique, en disant voilà c'est important Hergé. Donc on dit ah bon bah très bien, donc c'est l'histoire d'un peintre. On regarde les peintures, on se dit que c'est quand même pas follement original, c'est très influencé par Miro ou Modigliani, et bon c'est un honnête peintre sans plus quoi.
Je sais que Yasmini aussi par Maître Croutas moi, mais bon.
Voilà, on peut dire que ce sont. Mais comme ce sont des œuvres qui n'avaient jamais été destinées à être exposées, puisque c'est le moment où Hergé, dans une des nombreuses crises qui ne sont pas racontées dans l'exposition, ne sait plus trop ce qu'il veut faire. Il dit, tiens, je vais m'essayer à la peinture, j'aime bien ça, j'ai un peintre belge du moment important qui va me cornaquer, etc. Donc il essaie, pourquoi pas, du moment que ça reste chez lui, là c'est exposé. Et alors donc on arrive dans la deuxième salle, et là c'est la salle Hergé amateur d'art. Donc on voit ce qu'on savait très bien, qu'il était collectionneur, amateur. Donc il y a tout un peu l'art de l'époque et du Fontana. Il commande des portraits à Warhol. Enfin voilà,
on a un petit bout de belles choses.
Il a, comme ça marchait bien pour
Fontana
lui, et on le sait très bien qu'il était effectivement un amateur d'art assez bien éclairé, très conseillé par Pierre Sterckx, qui est aussi le grand absent, trop présent et pas de la bonne manière, celui qui vient de publier L'Art d'Hergé juste avant de mourir, et dont on a des citations, j'y reviendrai peut-être tout à l'heure parce qu'elles sont problématiques. Donc on a quelqu'un qui s'essaye à peindre, qui est amateur d'art, et puis on voit de loin écrit Hergé en très gros par une succession de tableaux qui forment le mot Hergé. Donc on va voir de plus près, on dit waouh, c'est tous les feuilles qui ont servi à la mise en place de ce qui aurait dû être ce qui a été l'album inachevé de Tintin et l'Alphard. Donc c'est une pièce extraordinaire que moi je n'avais jamais vue. Mais elle est là de manière très décorative, c'est-à-dire qu'elle est là pour
parce former... Parce que les cadres forment les lettres.
Elles forment les lettres Hergé, parce que c'est toute une histoire dans la Tintin et l'Alphard d'art alphabétique qui utilise des grandes lettres, etc. Mais quand on passe, finalement, on s'y arrête pas, parce que c'est juste joli, c'est rigolo. Cette œuvre, ces pièces en elles-mêmes mériteraient une grande exposition sur laquelle on travaille. Toujours est-il que... On a l'impression que c'est l'histoire d'un peintre qui, par ailleurs, faisait de la bande dessinée, alors que c'est tout le contraire. Donc, le premier problème de cette exposition, c'est qu'elle se pose elle-même la question, qu'est-ce que Hergé fait au Grand Palais? Pourquoi l'exposer? Quelle drôle d'idée? Mais non, c'est pas si une drôle d'idée, parce qu'en fait, c'était avant tout un peintre. Hergé lui-même a toujours dit « Mon art, c'est la bande dessinée, je ne serai jamais un peintre, je ne veux pas être un peintre du dimanche, il faut y consacrer sa vie. » Donc, comment exposer la bande dessinée? C'est toujours la même question qui n'est pas résolue ici, et c'est déjà très énervant.
Bon, Lucille compte tous les défauts déjà de l'exposition. Est-ce que Joseph va en rajouter quelques-uns, Joseph Gosne?
Je vais aller dans le sens de mon camarade, puisque j'ai aussi eu cette même expérience... de chronologie un peu étrange. Je me suis posé la question surtout en sortant de l'exposition en disant mais au fait est-ce que j'ai pas vu tout ça à l'envers? Donc déjà ça m'a un peu j'étais vraiment surpris.
Oui, parce qu'il faut dire que les dernières salles sont les premiers
chronologiquement
dessins,
on découvre des choses,
les premières œuvres d'Hergé passionnantes. Là aussi des choses qu'on a j'imagine pas très souvent vues, qui sont vraiment très très riches.
On les connaît toutes, on les a jamais vues pour de vrai.
Voilà.
Abondamment documenté depuis des dizaines d'années dans toutes les œuvres.
Oui, bien sûr, mais ces œuvres-là donc finissent l'exposition,
On finit par les débuts. Moi, ce qui m'a frappé. C'est que l'exposition s'inscrit dans cette idée qu'on voit être développée depuis une quinzaine d'années par les ayants droit, etc., qui est que Hergé est un artiste d'art contemporain, qu'il est l'égal de Warhol, etc. Et effectivement, on commence par ça. Moi, la première chose qui m'a frappé, c'est effectivement que Hergé a chez lui, possédé une collection d'art. On le savait. Là, on voit ce que c'est. Et donc, du coup, on rentre par ses goûts. Et on a l'impression que les goûts d'Hergé forment le cœur de son œuvre. Ça, pour moi, c'est vraiment problématique. Parce que quand on regarde vraiment ses goûts, effectivement, les pièces sont très belles. Il y a du Warhol, ça, même si c'est pas le Warhol que je préfère, mais il y a ces Liechtenstein, la cathédrale de Rouen, qui sont assez frappants, etc. Bon. Sauf que c'est un goût d'époque. C'est vraiment un goût de cette fin des années 60, années 70. Et on sent bien que ce sont des goûts qui sont plus ou moins commandés par d'autres. Mmh. Donc il y a un goût d'époque qui me gêne beaucoup et qui n'a rien à voir en fait avec l'œuvre, qui n'a rien à voir avec Tintin.
Rien.
Et d'un coup, ça influe sur l'ensemble de ce qui est donné à voir ensuite. Donc la déambulation dans l'exposition après est un peu problématique, surtout que moi j'y étais un dimanche où il y avait beaucoup de monde, j'y étais aussi avec des enfants et parce que je crois que le rapport en tout cas mon rapport à cette œuvre, en tout cas à la lecture d'Hergé, que ce soit Tintin ou les autres livres d'Hergé, c'est construit dans mon enfance et je pense que c'est intéressant de voir comment les enfants réagissent à ça, parce que il y a quelque chose, je crois, dans Tintin et dans tout ce que Hergé a fait qui relève de ce rapport là qui pour moi est un rapport très essentiel à la découverte de la lecture de la bande dessinée, mais de la lecture en général et du fait de s'y plonger. Or les enfants avec lesquels j'étais ont surtout été arrêtés par des maquettes. Mmh. et même moi.
Il faut dire que les planches ne sont jamais à leur hauteur, donc ils ne peuvent voir que les maquettes.
Et surtout, les planches ne sont pas si bien exposées que ça. On les voit pas. J'ai vraiment eu l'impression de passer à côté de choses, de voir des espèces de grandes reproductions d'images sur des murs, des textes comme ça, mais rien qui me parlait du processus de création, rien qui me parlait des tourments de cet homme-là, puisque finalement, Hergé, qu'on connaît sans vraiment le connaître, puisqu'on sait qu'il a eu des tourments, les problèmes pendant l'occupation, etc. Tout ça est très évacué.
Ah ouais, enfin,
on le voit pas du tout.
On va reparler de ça, oui.
Et puis tout à coup, on se retrouve face à des choses. Par exemple, moi, j'ai apprécié cette salle où il y a toutes les publicités, toutes les réclames qu'il dessinait, qui sont assez impressionnantes, assez belles, et on voit comment ça s'inscrit dans son œuvre. Mais sauf qu'on a envie de que ce soit inscrit dans un contexte, que ce soit mieux raconté, qu'on comprenne pourquoi il faisait cela et comment il a aussi poursuivi cela plus tard avec les studios Hergé, etc. Donc je trouve que effectivement toute la scénographie, la mise en contexte et tout ce que ça aurait pu raconter est totalement à côté de la plaque.
Oui, parce qu'on a affaire quand même à une exposition décorative. En fait, c'est beaucoup dans la scénographie et dans tout ce qui n'est pas le travail de la planche, qui est quand même très mise en avant, effectivement, avec des animations, des maquettes, des reproductions.
Un masque africain, un voile tibétain,
voilà,
pour décorer la vitrine.
Pour décorer, en effet. Et surtout, cette décontextualisation permanente, parce qu'il faut quand même parler de la question politique, idéologique. Et tout d'un coup, on voit, alors on va y revenir, Antoine, c'est des citations comme ça, ou certains dessins, quand on se dit, ah bon, en fait, Hergé, c'est un résistant pendant la Deuxième Guerre mondiale, puisqu'il fait quand même des planches extrêmement engagées contre l'ennemi. Sauf que tous ces éléments qui pourraient être évidemment à décharge contre ces accusations de Hergé qui aurait flirté avec une droite nationaliste, rien n'est daté. Donc tout ça est livré sans aucune rigueur scientifique qu'on a quand même en droit d'attendre d'une exposition au Grand Palais.
Mais c'est le gros problème, encore une fois, de cette exposition à rebours, parce qu'on ne peut comprendre Hergé, et Hergé est passionnant pour cela, si on suit son parcours biographique, c'est-à-dire un parcours moral et politique.
Absolument.
C'est quelqu'un qui baigne au départ dans une droite catholique très dure et très favorable finalement à l'occupation allemande, ce qui fait qu'il va
comme
se retrouver...
Comme tant d'autres.
Oui, non, mais c'est son contexte. C'est son contexte idéologique, familial et culturel. Il va se retrouver effectivement à publier Tintin pendant la guerre dans ce journal réquisitionné par l'occupant, ce que les Belges appellent le soir volé. Il va continuer à publier dedans en choisissant, et toutes les biographies et les réflexions qu'il y a eu sur Hergé plaident plutôt non pas pour une collaboration active, c'est-à-dire qu'il ne partageait pas à ce point-là, mais il a choisi de fermer les yeux. Et la manière dont est représenté, par exemple, comment paraît Tintin dans Le Soir volé, ce sont des petits strips qui apparaissent dans la page des réclames. Donc on se dit, bon, c'est assez anodin, ce n'est pas bien grave. On remarque quand même que la moitié des films pour lesquels il y a de la pub sont des films allemands, mais ce que ne montre pas l'exposition, et notamment cette page-là, c'est que dans les autres pages du journal Le Soir volé, il y avait une littérature épouvantable, des dessins extrêmement antisémites de son ami Jamin, qui apparaît bizarrement sur une planche de crayonné un moment après la libération, parce que Jamin a été condamné à mort pour pour son antisémitisme et sa collaboration active avec l'Allemagne. Et tel qu'on le voit, on s'est dit, bon, finalement, il était dans le journal parce qu'il fallait bien continuer à travailler. Il y a cet extrait qui passe en boucle où Hergé se justifie en disant Léopold, le roi Léopold, nous a dit de nous remettre au travail. C'est ce que j'ai fait. Et on entend ça en boucle comme ça. Et puis, on met en exergue, effectivement, ce petit personnage qui s'appelle Monsieur Bellhomme, qui apparaît comme sortant furtivement, écrivant Hitler est un fou ou criant mort aux Boches. Mais quand on a vraiment lu, ça aussi, ça a été publié, Monsieur Bellhomme, en fait, c'est un éloge du pacifisme. C'est-à-dire, surtout, ne prenons pas parti, nous sommes un petit pays, restons neutre, etc. Et finalement, le fait que Hergé ait choisi de fermer les yeux est déjà un problème, mais ce qui est passionnant avec Hergé, c'est qu'il a fini par les ouvrir, les yeux. C'est-à-dire qu'il a suivi un parcours qui fait que dans son dernier album, Tintin et les Picaros, il sera du côté des révolutionnaires communistes en Amérique du Sud. Donc c'est un parcours qui est passionnant à raconter. L'exposition choisit de l'occulter, ce moment. Et quand on le voit en rebours, il y a la vitrine Tintin au Congo, où on va très vite évacuer le problème du colonialisme de l'époque, du racisme. Non, c'est pas de sa faute, c'était le bilan. Et puis, on le voit avant même qu'on aborde ces années noires de la guerre, qui sont en plus les plus passionnantes esthétiquement parlant. C'est là où Tintin devient Tintin, où il y a l'étoile mystérieuse, où il y a le mystère.
La plupart des personnages sont créés, hein,
où il y a la licorne, Rackham le Rouge, etc. Tout, c'est foisonnant et formidable pour lui. Ça, on l'évacue parce que c'est la période embarrassante. Mais avant même qu'on ait ça, on découvre la création du journal Tintin, en disant, créé par Raymond Leblanc, grande figure de la résistance, ce qui est vrai, mais en oubliant de dire que quand Hergé y va, il fait rentrer dans le journal tous ses amis, dont Melquebec et autres, qui ont été condamnés pour indignité nationale pour avoir collaboré avec l'Allemagne, et que Tintin devient le refuge de tous ces gens qui vont publier sous pseudonyme, de manière plus ou moins cachée. Donc ça nous donne en plus une fausse image, mais de manière tellement maladroite, que les gens se disent, c'est quand même bizarre, ça doit cacher quelque chose, Hergé en fait devait être un gros collabo, ce qu'il n'était pas. Vous voyez à quel point c'est
ça se tirait une balle dans le pied.
À côté de beaucoup de choses, notamment juste du point de vue de la création.
Voilà.
On ne voit jamais comment ce personnage évolue et comment Hergé vit aussi avec son personnage. Enfin, vit plus ou moins bien, plus ou moins mal sur la période. Ça c'est totalement occulté. Et je trouve qu'il y a de vraies erreurs dans la mise en scène, notamment au regard de ce qu'il y avait eu à Beaubourg il y a une quinzaine d'années.
Qui était sur Tintin
cette fois. Mais il y avait des choses en commun. Par exemple, il y a là dans l'exposition au Grand Palais, il y a un mur qui reprend les couvertures du Petit XXe, qui sont des couvertures d'une qualité incroyable et qu'on avait déjà vu à Beaubourg, mais qui à Beaubourg était présenté sous une forme de frise qu'on pouvait suivre et on pouvait voir l'évolution. Tandis que là, on est face à un mur et rien n'en ressort. Absolument rien. Alors que je me souviens du choc, vraiment du choc esthétique que j'avais eu en regardant toutes ces couvertures du Petit XXe, les unes après les autres, et on voyait son travail, la diversité, à quel point il pouvait être clair, sombre, etc. Et là, rien ne ressort. Donc il y a de vraies erreurs et c'est vraiment dommage pour un corpus aussi fascinant et aussi complexe qui n'est pas épuisé pour le coup.
Antoine Guillot.
Alors, même sentiment de gâchis pour cette salle centrale dans l'exposition, celle qui s'appelle Une famille de papier, qui est dans une petite rotonde à l'écart. On peut la rater quand on y va, et où sont exposés, ça encore c'est très rare de les voir, ce sont des vrais trésors, je n'ai peut-être pas assez dit, mais il y a dans cette exposition un ensemble de pièces.
Il y avait des trésors,
il y avait de quoi faire une super
exposition. Extraordinaires qui ne sont jamais exploités. Alors il y a cette salle qui s'appelle Une famille de papier, donc qui vise à présenter les grands personnages de l'œuvre. Alors, on a Adoc, Tournesol, la Castafiore, etc. Le tout présenté sous forme de crayonné. Ce qui est très rare, c'est-à-dire qu'on connaît effectivement la mise au propre. Tout le travail et la réflexion de Hergé se passe entre le crayonné et la mise au propre. Donc, c'est très frustrant que ce ne soit pas exploité. Quand on connaît un peu Hergé, on se régale. Mais quand on n'est pas vraiment, on voit juste les personnages. Ah ouais, tiens, c'est Adoc. Et sauf que, au milieu de cette salle, qu'est-ce qui trône? Il trône une maquette de Moulinsart, du château de Moulinsart. Et là, tout d'un coup, c'est comme d'habitude avec l'impensé, avec le refoulé, c'est le retour du refoulé qui nous dit toute la vérité de cette exposition.
Au centre.
C'est la fondation Moulinsart, c'est monsieur Nick Rodwell qui contrôle très étroitement l'œuvre d'Hergé, en essayant justement d'en faire, comme Joseph Gauss le disait tout à l'heure, le grand artiste du XXe siècle, et surtout de contrôler l'image que rien ne dépasse. Donc on comprend effectivement une fois qu'on voit que Moulinsart est au centre de cette exposition, que tout a été contrôlé, qu'il n'y a eu aucune marge de manœuvre, qu'il n'y a pas de commissariat d'exposition digne de ce nom, parce que j'ai le plus grand respect pour monsieur Jérôme Neutre, mais à la RMN, c'est le directeur de la stratégie et du développement, ce n'est pas un scientifique qui a réfléchi sur le dessin, sur la bande dessinée et autres. Et l'autre commissariat, c'est le musée Hergé, donc c'est le contrôle Moulinsart. Et alors un peu plus loin, on va à une salle très étonnante, avec de très belles pièces là encore, on voit les plaques en zinc qui ont permis d'imprimer Tintin au pays des Soviets. Et pour expliciter le génie du dessin de Disney, c'est là qu'on a les citations de Hergé, pardon. C'est un autre, celui-là. Pour expliciter le génie de Hergé, c'est là qu'on a ces petites citations de Pierre Sterckx qui, quand on lit son livre, sont très argumentées, très passionnantes, mais là, sont comme des arguments d'autorité en disant « Regardez, c'est formidable ». Et pour l'illustrer, on a ces dessins d'un Hergé très débutant, parce que Tintin au pays des Soviets, c'est quand même pas l'œuvre la plus aboutie. Nous chantons les équilibres du noir et du blanc, le monochrome à la Malevitch, etc. C'est stupéfiant, ça peut s'appliquer à plein d'autres albums qu'il a fait, mais sûrement pas à celui-là. Alors donc on chante le noir et blanc, formidable, extrêmement passionnant, de Tintin au pays des Soviets. On se dit, mais pourquoi une salle entière pour Tintin au pays des Soviets? C'est quand même une œuvre un peu anecdotique, presque à oublier, embarrassante. Eh bien, il y a une raison, évidemment, puisque comme on peut plus rien publier de Tintin, puisque Hergé est mort et il a fait savoir qu'il voulait pas que ça continue après lui, il faut trouver des choses à faire et à publier régulièrement. Et qu'est-ce qu'on va avoir début 2017? Une réédition de Tintin au pays des Soviets. Mais attention, entièrement recolorisé avec les couleurs type l'étoile mystérieuse, donc avec ces trucs, on n'est pas dans les derniers Tintins, hein, on est vraiment dans ces textures comme ça. Et on dit, mais attendez, donc il y a cette salle pour faire revenir à la surface Tintin au pays des Soviets en chantant le noir et blanc, tout ça pour un album qui va finir par sortir en couleur. C'est à tomber.
C'est un dernier mot, Joseph Gosse, sur cette exposition Hergé.
Non, mais dire
qu'il y a quand même des choses.
Il y a des très belles pièces, mais le gâchis est que rien ne dépasse. Alors que justement, on a envie, quand on s'intéresse à Tintin et à tout ce qu'Hergé a fait, que ça dépasse justement, que ça aille au-delà de ses cases et de tout ce qu'il a caché. On a envie de savoir ce qu'il y a derrière. C'est vraiment toutes les questions qui sont autour de Tintin sont là. Mais là, rien ne dépasse. On n'a rien appris à part trouver par soi-même des pièces formidables. Mais rien n'a appris de tout ça.
Rien ne dépasse. Hergé au Grand Palais jusqu'au 15 janvier. Un catalogue coédité par la RMN et les éditions Moulinsart, bien évidemment.
France Culture.
La dispute.
Arnaud Laporte.
Nous parlerons tout à l'heure de Daniel Clowes, mais aussi de Simon Roussin et Emmanuel Guibert. Avant cela, suivons Lucille Como dans le petit salon. Et ce soir, Lucille, un petit salon sur une idée d'Antoine Guillot.
Oui, Antoine Guillot, mon prédécesseur et mon maître, donc, qui m'a envoyé la semaine dernière un article.
Vous avez un truc à lui demander ou pas?
Absolument pas. C'est juste sous son égide. Voilà, il m'a envoyé un article du site Actua BD. Un article qui est peut-être signé par lui, d'ailleurs, sous le pseudonyme de Didier Passamonique.
Ah oui, c'est lui.
C'est lui. Dont je vous lis une partie de l'accroche. Très bonne accroche, Antoine. Le dialogue entre la bande dessinée, ce truc niché entre la littérature et les arts visuels et la peinture. Le quatrième des beaux-arts, selon la classification schopenhauerienne, n'a jamais été aussi intense que ces derniers temps. L'article est donc une sorte de revue des rencontres proposées en cette rentrée entre la bande dessinée et les beaux-arts. Alors, il y est question de cette fameuse exposition Hergé au Grand Palais, je cite, où les concepteurs tentent de nous le vendre comme si c'était Goya, et des diverses publications qui l'accompagnent. Mais oui, c'est ce que je suis en train de me dire de plus en plus. Alors, il parle aussi, cet article, d'une parution intitulée René Magritte vu par, un album dans lequel des auteurs évoquent par la bande dessinée leur rapport au peintre, tandis qu'une exposition Magritte bat son plein au Centre Pompidou. Il y a enfin un album et une exposition mêlant des dessins de Johan Sfar et l'œuvre de Dali. Alors à la fin de l'article, l'auteur émet plusieurs hypothèses pour expliquer la prolixité de ce dialogue. D'abord, la recherche d'un vrai terrain d'inspiration mutuelle. Autre chose, l'expression d'un complexe d'infériorité du côté des dessinateurs de bandes dessinées, ou encore des enjeux de gros sous dans deux univers où il s'agit de tirer son épingle du vaste jeu. Alors j'ai un peu navigué sur ce même site, j'ai trouvé un article, une critique datant d'il y a quelques années, une critique plutôt positive de l'exposition Vraoum. Point d'exclamation. Exposition qui faisait dialoguer bande dessinée et art contemporain, c'était à la Maison Rouge, à Paris. L'article, là, est plutôt revendicatif d'un pied d'égalité, considéré comme insuffisant quand les œuvres d'art faisaient, selon l'article, l'objet d'accrochages très élaborés, alors que les planches de bande dessinée étaient classées, elles, selon un parcours arbitraire et peu réfléchi. Il s'agissait là donc de revendiquer le statut exposable et profondément artistique de la bande dessinée. Le premier article, lui, dont j'ai lu un extrait, est très différent. Le ton est très très ironique et cible probablement la banalisation de ce dialogue entre le 9e art et l'art dit noble dans un monde où la recherche universitaire et les grands musées se sont emparés de la bande dessinée et où il n'y a plus guère qu'Alain Finkielkraut pour la considérer comme un art mineur. Une manière peut-être de revendiquer de nouveau le caractère profondément indépendant et autre de la bande dessinée parmi les disciplines artistiques et la sortir de ce mouvement d'habilitation forcée dont elle a ces dernières années été l'objet.
Bon, peut-être Luc Ferry aussi, pour reparler d'un copain de votre maître, Antoine Guillot. Mais j'en sais rien, peut-être qu'il aime la bande dessinée, Luc Ferry. Ça, on va demander à Antoine de commenter son propre article, mais Joseph Gosn.
Moi, ce qui ça me fait penser à cette connexion qui n'existe pas entre la bande dessinée et l'art contemporain me fait toujours penser au fait que finalement les auteurs en bande dessinée ne sont jamais considérés comme de vrais auteurs alors que ce sont de vrais auteurs et que c'est ça qu'il faut défendre, que c'est cet art là pour ce qu'il est, c'est-à-dire un art qui est né finalement dans des journaux, puis dans des livres, dans des revues, des magazines, etc., qui n'est pas spécialement un art fait pour être exposé. Et d'ailleurs, c'est ce que disait Antoine Guillot tout à l'heure, c'est-à-dire on se pose toujours la question de comment faire pour exposer une bande dessinée à chaque fois qu'on voit une exposition de bande dessinée. Donc, au fond, il faudrait surtout faire pousser un peu plus ces auteurs et arrêter de les comparer, arrêter de mettre Johann Sfar et Dali. Enfin, je veux dire,
à un moment, ça n'a aucun sens. Johann Sfar qui a choisi de travailler avec l'œuvre de Dali.
Oui. Il faudrait peut-être pas laisser Johann Sfar s'intéresser à l'art.
Peut-être. Oui, il faudrait peut-être pas.
Peut-être que Johann Sfar se remette à dessiner comme il le faisait il y a 15 ans. Ce serait déjà pas mal.
Ouais, Antoine. Guillaume.
Alors, mettons les choses au clair tout de suite. Je ne suis pas Didier Passamonique, s'il nous écoute, qu'il ne se fâche pas, mais c'est vrai qu'il
blague,
c'est un spécialiste des articles un peu polémiques et bienvenu dans un milieu très polissé en général. Donc, il n'a pas toujours raison, mais de temps en temps, voilà, il provoque la discussion et c'est toujours intéressant. Alors, sur cette question-là, c'est effectivement une tendance de fond qui a plusieurs raisons. Une qui est ancienne, c'est effectivement la frustration, et elle ne date pas d'hier, des auteurs de bandes dessinées qui n'étaient pas pris au sérieux et qui, par ailleurs, faisait de la peinture pour essayer de... ou du cinéma ou autre chose pour être enfin considéré comme un vrai artiste. Donc, pour les plus récents, c'est Drouillet, c'est Bilal et c'est tant d'autres. Il y a autre chose, c'est qu'il y a maintenant une valeur marchande de la bande dessinée dans les ventes d'art, et notamment des planches de Hergé qui atteignent à chaque fois, chaque année, un record, mais parce qu'elles sont très rares aussi. Et puis, beaucoup d'auteurs paupérisés se sont dit peut-être que par là, je peux aussi gagner un peu d'argent. Il y a par ailleurs des auteurs qui sont auteurs de bande dessinée et qui par ailleurs sont artistes contemporains comme Jürgen Gerner, comme Ludovic de Boerm, comme Kilofer et tant d'autres qui ont, eux, n'essayent pas de faire de la bande dessinée, explorent vraiment des domaines et commencent à être reconnus par le milieu de l'art, à être achetés par les FRAC, voire par le Fonds National d'Art Contemporain, comme c'est le cas de Jürgen Gerner. Mais tout ça se mélangeant, il y a effectivement de plus en plus d'expositions, et notamment c'est dû à un ancien directeur du Festival d'Angoulême, Jean-Marc Thévenet, qui en a fait un peu son fonds de commerce, d'expositions visant à faire de la bande dessinée de l'art contemporain, mais aussi avec un calcul qui est très marchand, qui est de se dire, si on le met dans des institutions importante. Alors, il a fait ça à la FIAC, il a fait ça au couvent des Célestins. Va y avoir une valeur marchande élevée et peut-être des collectionneurs ou des gens qui ont beaucoup d'argent qui ne savent plus où le défiscaliser, plutôt que de se battre contre d'autres collectionneurs pour acheter tous la même chose, pourraient investir dans la bande dessinée. Alors, ces expositions, après, ont des intérêts relatifs. Moi, je m'en souviens d'une qui, au couvent des Célestins, c'est intéressant parce qu'il faisait dialoguer, en fait, des artistes contemporains et des artistes de bande dessinée, qui chacun créé en ping-pong avec l'autre. Donc tout d'un coup, ça faisait quelque chose qui, à l'intersection, était assez intéressant. Et puis, au musée de la bande dessinée à Angoulême, il y avait eu aussi une exposition très intéressante parce qu'elle interrogeait même cette question, est-ce que la bande dessinée, c'est de l'art contemporain ? Donc il s'intéressait aussi à comment la bande dessinée travaillait, représentait l'art contemporain et montrait les pratiques en art contemporain d'un certain nombre des artistes les plus intéressants que j'ai cités tout à l'heure. Donc ce sont des vraies questions qui se posent, mais qui ne se posent pas effectivement quand on fait faire des grands dessins très agrandis de Johann Sfar pour les mettre à côté de Dali. Ça, c'est quand même effectivement très curieux.
Là où la bande dessinée rejoint l'art contemporain, c'est effectivement ce que vous dites dans la dimension du marché. C'est vrai que les maisons d'art Curial et Sotheby's ont fait des ventes records et que les scénaristes qui sont on va dire les dindons de l'affaire maintenant sont souvent, on demande souvent par contrat une planche de l'album qu'ils scénarisent, comme une sorte de thésaurisation aussi possible.
C'est aussi parti d'un mouvement aux États-Unis. On a vu aussi quelques galeristes qui eux ont parié sur des choses sorties de la contre-culture, s'emparer par exemple de Crumb ou de quelques personnalités comme ça autour de lui et ont un peu fétichisé son œuvre qui est une très très grande œuvre.
Il y a eu
comme ça un petit circuit autour de Crumb et de certains de ses, ouais. de ses enfants, notamment Chris Ware, Charles Burns, Daniel Close aussi dont on va parler, qui eux ont réussi à rentrer dans ce circuit d'art contemporain, mais vraiment pour la qualité plastique et esthétique de leur planche et leur rareté aussi. Donc ça vient aussi un peu de là, je crois.
Mais, les commentaires, Antoine, Guillaume.
Alors, comme je ne m'autocite pas en citant Passamonique, je peux là réellement m'autociter par rapport à une revue de presse précédente que j'ai faite la saison passée sur comment la bande dessinée est aussi un produit d'appel pour les musées. On l'a vu avec Zep récemment à Lille. Donc, il y a aussi un côté utilisons la popularité de certaines œuvres et de certains pour faire revivre des lieux un peu poussiéreux. Pourquoi pas. Après, Passamonique se fiche un peu de ce qui a été édité autour de Magritte du Petit Livre, je l'ai regardé, c'est très beau. Mais parce que c'est un vrai regard d'auteur de bande dessinée sur l'œuvre de Magritte, et donc ça vaut tout à fait le coup. Ce n'est pas un objet inutile, loin de là.
Bon, ben voilà un conseil, j'ai pas vu ça encore, mais je vais donc y aller de ce pas. Et place à présent aux recommandations de nos critiques présents ce soir. Ouh là là, c'est un grand format ça, Joseph Gauss.
C'est un grand format avec des grands dessins et des tout petits textes.
Prisonnier des glaces.
Prisonnier des glaces.
Simon Roussin, c'est 2024. Roussin.
Édition 2024, dans la collection Les Ailes Brisées. Simon Roussin, on en a déjà parlé ici, à une ou deux reprises, si je me souviens bien. C'est un jeune auteur, enfin il a quand même quelques livres à son actif maintenant, qui travaillent tous autour de la bande dessinée d'aventure, mais un peu reconfigurée à sa manière. Il a fait beaucoup de choses au feutre, des choses monochromes aussi. Ça évoque toujours pour moi, vous savez, ces bandes dessinées d'aventure des années 50, Spirou, etc., cette espèce de franche camaraderie. Là, on est dans ça, sauf que Roussin est beaucoup plus pervers que ça. Et c'était une sorte de trio amoureux. On ne voit jamais la femme, mais la femme envoie un ancien amant à la recherche de son mari perdu dans les glaces. Et les dessins racontent ça, et le texte raconte encore autre chose, qui est en fait une lettre de cet aventurier à un autre ami qui est sans doute lui aussi amoureux de cette femme. On est dans plusieurs niveaux de lecture, plusieurs niveaux de perversité, je dirais. Et c'est surtout aussi très très beau visuellement, graphiquement. Je trouve que Roussin n'a jamais été aussi fort. Il fait aussi des livres pour enfants, et on voit bien que son trait est tout de suite, enfin son dessin, ses couleurs sont tout de suite très très attractives. Marche, fonctionne immédiatement, mais il faut vraiment aller en profondeur dans ce livre qui est assez court, mais très grand et très beau. Voilà, oui. je recommande tout ce que ce garçon a fait, même s'il y a des choses inégales, son œuvre est vraiment en train de se construire.
Ce qui est étrange, alors pour le coup, je sais pas, on pourrait tout à fait exposer ça, je sais pas quel est le format des planches originales, mais c'est le contraste qui est entre les personnages, et je reconnais bien le trait en fer, effectivement, et l'inscription dans des paysages qui sont
des paysages arctiques, très
absolument extraordinaires, très riches, mais enfin c'est de l'Arctique
on est
chaud,
on
est parce qu'il y a beaucoup de rouge,
on est presque en psychédélisme parfois, enfin c'est il y a des jeux sur la lumière, sur des hallucinations, sur de la violence aussi. C'est vraiment un très beau livre, et j'aime beaucoup d'ailleurs par ailleurs cet éditeur 2024 qui fait des livres assez recherchés. Ils viennent de sortir un livre que je n'ai pas encore lu, mais qui a l'air très beau, d'un dessinateur anglais, je crois, Tom Gold, que je vais m'empresser de lire.
Voilà. Vous disiez, Antoine ?
Écossais, police lunaire.
Tout à fait.
Formidable, police lunaire.
Voilà. Je ne l'ai pas encore lu, mais sur la recommandation d'Antoine Guillot, je vais m'empresser de le lire.
C'est votre maître ou...
Parce que Antoine Guillot et Didier Passamonique
sont vos maîtres. Bon, Prisonnier des glaces 2024, c'est une œuvre de Simon Roussin. Et puis, le retour de la suite, Emmanuel Guibert. Martha et Anan, ça me dit quelque chose, je sais pas pourquoi.
C'est toujours un événement. Quand sort non seulement un livre d'Emmanuel Guibert, mais la suite donc de cette biographie au long cours que fait Emmanuel Guibert depuis 1996, ça fait 20 ans maintenant qu'il a commencé. Pour ceux qui ne comprennent pas de quoi il s'agit, Emmanuel Guibert rencontre
Lucille Comoun.
Rencontre pendant ses vacances un vieil Américain. Il a 30 ans, l'Américain en a 70, et cet Américain, pendant leur brève amitié qui va durer quelques mois, va lui raconter sa vie. Emmanuel Guibert va l'enregistrer et n'aura de cesse depuis d'en faire de la bande dessinée. Donc on a eu la guerre d'Alan, puisque Alan avait fait la Seconde Guerre mondiale, et on a eu l'enfance d'Alan, qui était le précédent, et puis voilà que surgit ce Martha et Alan. Alors c'est un petit livre, mais c'est un concentré d'émotions sur la ténuité de la vie qui est absolument bouleversant. Ça raconte donc quelque chose que Guibert avait volontairement laissé de côté, c'est une amitié, une histoire d'amitié entre un garçon et une fille qui se rencontrent quand ils ont 5 ans et que la vie va séparer puis réunir sous forme d'une correspondance et qui aurait pu être une histoire d'amour, et puis pour des raisons familiales, pour des raisons économiques aussi, cette histoire n'a jamais eu lieu. Mais c'est comme si vous vous souveniez de ce petit garçon ou cette petite fille que vous avez beaucoup aimé quand vous étiez à la maternelle, avec qui il aurait pu peut-être se passer quelque chose, et puis finalement à la fin de votre vie vous dites bah voilà, ma vie est passée, elle est passée autrement. Et alors ce qui est très beau dans ce livre, c'est qu'on est dans des doubles pages qui sont conçues vraiment pour être imprimées, c'est-à-dire qu'il n'y a rien au milieu, à l'endroit de la pliure qui soit gâché, quelques textes autour. Donc on pourrait se dire c'est pas une bande dessinée, c'est un livre d'illustration. Eh bien non, parce que ça raconte une histoire, ça fait séquence, il y a des moments où il y a des petites scènes de bande dessinée, mais c'est surtout graphiquement que c'est époustouflant. Ce qui est incroyable avec Emmanuel Guibert, qui est un grand grand maître du dessin, c'est qu'il se réinvente à chaque fois. Et là, les précédents étaient en noir et blanc dans les aventures d'Alan. Ici, on est en couleur selon un procédé expérimenté par Emmanuel Guibert qui consiste à utiliser des rhodoïdes, c'est-à-dire des grandes feuilles transparentes. Il va faire le trait au noir d'un côté et de l'autre côté, il va faire la mise en couleur avec un mélange d'aquarelle, de craie, de cire. Enfin, ça a l'air très compliqué et assez mystérieux, mais ça donne un rendu à l'image qui est presque celle d'un vieux film en Super 8. Vous savez, l'émotion que peut procurer, c'est très utilisé dans le cinéma, de faire des flashbacks comme ça en Super 8 pour retrouver ce grain un peu fourmillant, cette luminosité presque de vitrail qu'il peut y avoir. Et la beauté de ces images et la délicatesse et la langue d'Alan qui est rapportée par Emmanuel Guibert vous provoquent des émotions qui vous renvoient à la fois à votre enfance, à l'adulte que vous êtes et au vieillard que je nous souhaite tous d'être un jour, qui est tout à fait bouleversant. Ouais. C'est extraordinaire, c'est encore un chef-d'œuvre d'Emmanuel Guibert.
Je ne peux qu'aller dans le sens... Dans ce sens-là, ce livre est d'une beauté incroyable. Même si on pensait que Emmanuel Guibert était allé au bout de son projet avec tous ses livres, etc., en 20 ans, là, rien que de feuilleter ce livre-là, ses couleurs, cette mise en page et tout ça, c'est très très beau. C'est vraiment un des beaux livres de cette année. Enfin, vraiment, c'est à tomber. Voilà, pour le dire vulgairement.
Absolument. Ce qui est très beau, c'est qu'on sait qu'il va poursuivre. En plus, il va y avoir l'adolescence d'Alan. Et surtout, ce qu'il veut, c'est au moment où il arrivera à la fin de cette histoire d'Alan, il veut raconter comment la rencontre, il va faire le contre-champ, comment la rencontre d'Alan a bouleversé sa vie et son art, et comment il s'est mis à s'intéresser aux histoires des gens autour de lui à cause de cette amitié qui n'aura peut-être duré que 6 mois. C'est une des plus belles aventures artistiques qu'il soit donné de suivre d'année en année, et ça fait 20 ans que ça dure.
Et ça mériterait d'être exposé pour le coup. Ah, vraiment, enfin, ce qu'on voit dans le livre est tellement beau qu'on a envie de voir comment ça a été créé et le processus derrière.
Il en a fait des expositions, Emmanuel Guibert, déjà, de ses planches ou...
Non, je crois que lui est très discret là-dessus, sur son travail.
Ouais.
Et je ne crois pas non plus qu'il soit dans les salles des ventes, non plus.
Non plus.
Martha et Alan, c'est donc le titre de ce nouveau volume d'Emmanuel Guibert, publié à l'association.
France Culture,
La Dispute,
Arnaud Laporte.
Et nous poursuivons cette dispute consacrée ce soir à la bande dessinée avec le grand retour de Daniel Clowes, avec Patience, du nom de son héroïne, mais aussi pour nous signifier qu'il fallait sans doute en avoir, pour attendre depuis 5 ans un nouvel inédit d'un des maîtres du roman graphique. Alors, j'ai dit ça, mais c'est un terme qu'il récuse. Il lui dit qu'il fait des comic books. Je l'adore rien que pour ça, déjà. ça nous change de la prétention de certains. Avant de, peut-être de parler de patience, comme je vois que Joseph est venu avec un autre livre, The Art of Daniel Cloves, ça permet peut-être de resituer Cloves, qui est quand même effectivement un des maîtres.
Un des maîtres. Daniel Cloves fait partie de cette génération d'Américains apparus dans les années 80 qui ont effectivement commencé par faire des comics, mais des comics qui ne traitaient pas de super-héros, mais qui traitaient de leurs histoires à eux. En l'occurrence, lui était fortement influencé par Serge Clair, le français Serge Clair, avec notamment un comics qui s'appelait Lloyd Llewellyn, dans lequel on retrouvait un personnage de détective avec un de ses sbires qui rappelait beaucoup le personnage de Phil Perfect, créé à l'époque par Serge Clair dans les années 80. Donc Close s'est toujours réclamé de ça, il venait de là, mais petit à petit son art, son dessin et ses histoires se sont mises à évoluer, à changer, et il a toujours poursuivi, enfin en tout cas jusqu'à des années récentes, un comics qui s'est, après Lloyd Llewellyn, qui s'est appelé 8 Ball, dans lequel il publiait plusieurs histoires, dont une histoire qui l'a rendu célèbre, qui est Ghost World, qui a été adaptée au cinéma, où on avait découvert d'ailleurs à l'époque Scarlett Johansson, ça doit être en 2000 je crois. Ghost World, c'est l'histoire de deux jeunes américaines dans une petite bourgade comme ça, qui découvrent, qui sont à la fin de leur lycée, qui vont partir, etc., qui découvrent à la fois l'amour, la complicité, l'abandon, etc. C'était vraiment très très beau. C'est un des grands romans graphiques, quoi que Close puisse en dire. Il en a fait d'autres. Il a fait ensuite un autre très très grand livre qui était très marquant, qui s'appelait David Boring, qui avait été édité en France chez les éditions Cornelius aussi. David Boring, c'est l'histoire un peu surréelle d'un garçon à la recherche en quête d'un parent auteur de bande dessinée, etc. Il y a toujours chez Close une histoire de quête, de perte et d'affirmation de à la fois de soi, mais aussi de sa place dans un monde qui est souvent un peu étrange et un peu en perte. Là, patience.
Ah, on y vient, alors, patience. Ah. C'était une présentation d'Anne Cloves que je vais faire poursuivre et tout à fait compléter par Antoine Guillot pour savoir où vous le placez dans votre panthéon et dire qu'il y a eu cette Ghost World adaptée. Et puis on va voir arriver Wilson, nouvelle adaptation d'après Daniel Cloves. Et c'est Woody Harrelson qui va prêter ses traits à Wilson.
On est curieux de voir ça. Ghost World vient d'être édité de manière magnifique par Cornelius également, qui a rendu ses couleurs à ce bleu un peu télévisuel. Il expliquait Daniel Cloves qui voulait que les gens soient éclairés comme s'ils passaient devant une maison où il y a la télévision. Et ce côté un peu glauque était formidable. Non, Daniel Cloves effectivement un très très grand auteur. Et quand il dit qu'il est auteur de comic books, c'est aussi parce qu'il s'inscrit lui-même comme Chris Ware dans une histoire du comic book. Et il aime beaucoup jouer avec les codes graphiques et citer tous ses prédécesseurs dedans. Donc il y a à la fois une humilité très orgueilleuse, je dirais, chez Daniel Cloves dans cette manière de parler de comic books.
Le temps est-il de son côté ? Chante les Rolling Stones. C'est bien sûr la question que se pose Jack Barlow, le héros de Patience, qui va, alors sans trop divulgâcher, voyager dans le temps, mais je vois mal comment nous ne pourrions ne pas évoquer cette dimension de ce livre, même si on évitera de trop en dire, mais en tout cas, voilà, voyage dans le temps, il y a, et le temps est vraiment une des questions essentielles, principales, éternelles, certes, mais importante dans le travail de Daniel Clowes. Vous disiez, s'inscrire dans la lignée, dans l'histoire, c'est cela de façon premier degré, mais aussi métaphorique, enfin, de toutes les façons, le temps dans tous ses états, Joseph Gosselin.
Oui, d'une façon, de la façon la plus directe, est que cette histoire pourrait être une histoire qui date des années 50, dans ces comics d'anticipation, de science-fiction, d'un peu avant les super-héros, enfin la création des super-héros, avec ces voyages dans le temps. On est aussi pas loin des univers de Philip K. Dick, avec le temps qui...
Les paradoxes
temporels, etc., les uchronies, tout ça, ouais. tout ce genre de choses, et la façon dont, tout au long de l'histoire de la bande dessinée américaine, du comics américain, justement, on a tenté de traiter ces histoires de mondes parallèles, de vie qui se replient les unes sur les autres, etc. Et là, ce qui est vraiment intéressant avec lui, c'est qu'il le traite à partir d'un point de vue très humain, très banal presque, d'un couple. On commence avec un couple qui a des problèmes, vraiment d'un couple tout à fait normal, d'un couple un peu pauvre, qui ne sait pas comment faire pour survivre, qui va avoir un bébé, etc. Et puis d'un coup se produit un événement. Au bout d'une dizaine de pages, la jeune femme est assassinée. Et le garçon est accusé. Donc à partir de là, et le garçon le dit, mon histoire commence là. Et son histoire commence là, et commence à se dérouler cette idée que il faut retrouver l'assassin, il faut retrouver ce qui s'est passé, il faut comprendre ce qui s'est passé. Et c'est là où intervient la bande dessinée, interviennent les possibilités de la bande dessinée, c'est-à-dire, ben en fait, on est capable de remonter dans le temps dans une bande dessinée. Et ça, c'est une donnée, en fait. C'est une donnée. C'est quasiment de l'ordre de la donnée. C'est-à-dire qu'il y a des explications, des astuces, etc. Mais on ne s'étonne jamais du fait que, finalement, dans une bande dessinée, et dans celle-ci surtout, le temps est capable de se replier sur lui-même, qu'on est capable de naviguer à plusieurs niveaux de réalité. Et que tout à coup, d'une case à l'autre, vous pouvez vous retrouver face à un personnage qui vous dit, ça fait 11 ans que je vous attends, alors que vous l'avez vu deux pages avant. En gros. Donc c'est ce projet-là qui est, je pense, celui de mener à son terme cette idée d'exploration du temps, et que, au fond, la bande dessinée permet aussi d'être présent dans tous les temps à la fois. Et en cela, je trouve que Clowes parvient enfin, depuis David Boring, c'est-à-dire en 15 ans, ça fait une quinzaine d'années, je crois, qu'il n'a pas vraiment fait une œuvre aussi forte et aussi accomplie, c'est-à-dire dans laquelle il arrive à se pousser un peu, à explorer vraiment ses propres obsessions, qui sont toujours celles de comment faire pour survivre à une perte. C'est beaucoup ça chez lui, la perte d'un être qu'on a aimé, la perte d'une identité, etc. Comment faire pour se réinventer. Et là, on est le livre aboutit finalement à ça. C'est-à-dire à un personnage qui change beaucoup, qui vieillit, qui se métamorphose, et qui à un moment se retrouve quand même confronté à son moi le plus jeune, ou en tout cas une autre de ses personnalités. On est presque dans du 2001, l'Odyssée de l'espace, mais c'est pas totalement ça. Donc il y a vraiment cette idée de confrontation avec soi qui, je pense, sous-tend toute son œuvre, avec aussi quelque chose. Si je peux parler une seconde de son esthétique, qui est vraiment, je trouve très forte, c'est que c'est quelqu'un qui a réussi à vraiment beaucoup évoluer. Je n'étais pas si amateur que ça de Wilson, etc., rétrospectivement. Alors que là, je trouve que à la fois dans les couleurs, la construction, le trait, il a réussi à retrouver quelque chose qu'il avait peut-être un peu perdu en s'éloignant du noir et blanc. Et c'est très fort, c'est très pop. Mais dans un bon sens du terme, il arrive à faire des espèces de références aux années 60, justement, à ces époques très psychédéliques, à cette esthétique-là, de manière assez subtile, à glisser tout ça. Et je trouve que c'est un livre qui est très réussi et qui mérite bien son titre de Patience, parce qu'il faut, enfin, il nous en a fallu, et il faut être aussi patient avec le déroulement de l'histoire.
Oui, ben on reviendra aussi sur l'histoire, mais pour rester sur la dimension esthétique, vous soulignez à juste titre, Antoine Guillot, le beau travail d'édition Cornelius, parce que là, on peut dire que des couleurs, il y en a. Alors, Hier soir, dans l'émission musicale, nous parlions de James Kirby. On peut parler de Jack Kirby, parce que le grand créateur avec Stan Lee des super-héros et donc le grand-père de ces comics. Et là, on retrouve des éclats de couleurs et qui sont très visiblement, qui viennent de là. Enfin, là, on est quand même sur
Il y a vraiment...
Joseph, post-scriptum, Joseph Close, avant qu'on entende Antoine.
C'était juste pour dire que Close, mais comme aussi Burns, Charles Burns, qui est de cette même génération, ce sont des gens qui sont aujourd'hui, qui se réclament et qui sont très influencés et qui utilisent beaucoup les couleurs et les comics des années 50, avec ces couleurs qui ont vieilli, et on retrouve beaucoup ça chez eux en ce moment.
Absolument. Antoine Guillot.
Et pas seulement les couleurs, parce que autant la plupart du temps, la narration est assez classique pour la forme. On est dans ce qu'on appelle le gaufrier. Hein. On est à six cases par planche. Et puis, par moment, il y a ces grandes pages, ce qu'on appelle les splash pages, qui sont vraiment un hommage direct à la fois à Jack Kirby, qui était un des premiers dans les comics à les utiliser, avec ce côté cosmique de la présentation, et aussi le psychédélisme d'un Steve Ditko. Le Steve Ditko des débuts, le créateur de Spider-Man, à qui il rendait déjà un hommage beaucoup plus stylistique dans le rayon de la mort, précédente incursion dans le domaine de la science-fiction et du super-héros, et où on retrouve d'ailleurs des objets qui sont dedans, par exemple le pistolet improbable et pop, on dirait qu'il sort de la série animée Batman des années 60, qu'utilise le héros. Et d'ailleurs, on est dans une science-fiction, dans un futur rétro-futuriste, c'est-à-dire qu'il est imaginé tel qu'on pouvait s'imaginer dans les années 60. Donc ça donne un côté effectivement assez curieux de ce livre qui, et en fait, on ne l'a pas encore dit, fonctionne beaucoup sur de la voix off, d'une certaine manière, c'est-à-dire ces petits carrés qui d'habitude servent à décrire une action. Chez Blake et Mortimer, ça décrit tout ce qu'on voit déjà dans le dessin. Et là, c'est une vraie voix off de film noir presque américain, dont on se demande, comme dans Sunset Boulevard, par exemple, d'où vient cette voix, à quel moment ça parle, puisque c'est le principe même des narrations multitemporelles, c'est quand est-ce qu'on est dans le flashback, dans le flash forward, où se situe l'action. Et il est très évident qu'à l'âge qu'a maintenant Daniel Close, il est plutôt dans la peau du Jack âgé qu'on voit agir dans le livre, que du Jack jeune qui est observé, puisque c'est aussi un grand livre sur le voyeurisme, enfin sur l'observation, puisque par la force des choses, comme on est dans le surtout, ne provoquons pas
de paradoxe temporel. Dans le temps, il faut pas trop s'approcher, mais il faut regarder
le moins possible agir. Mais c'est aussi, et c'est ce que je trouve moi le plus émouvant dans la narration, en tout cas, c'est cette manière de se replonger dans ces histoires passées, ce qu'on fait tous à un moment ou à un autre, en disant qu'est-ce qui se serait passé si j'avais fait ça, si j'avais pas dit telle chose, si j'étais arrivé 5 minutes avant, 5 minutes en retard. Et c'est ce que fait le personnage de Jack, mais c'est aussi ce que fait d'une certaine manière Daniel Close, parce qu'on peut retrouver des échos à tout ce qu'il a fait auparavant, comme le disait Joseph Gosse tout à l'heure. Il y a des éléments de ces petites villes un peu mornes où on s'ennuie terriblement, où les gens sont médiocres et où on se demande comment échapper à cette médiocrité. C'était toute l'histoire de Ghost World et tant d'autres qui le rapprochent directement. Alors ce qui m'a beaucoup troublé, vous parliez du dessin et que vous n'étiez pas très fan de ce qu'il avait fait auparavant, parce qu'il avait une manière de figer son dessin qui le poussait vers un Chris Ware, c'est-à-dire à cette manière extrêmement contrôlée de surtout rien laisser dépasser. Et je dois vous avouer que quand j'avais feuilleté l'édition américaine en attendant qu'arrive l'édition française, qui est plus belle, je trouve, que l'édition américaine. Je salue encore Cornelius, parce que les planches sont plus grandes, donc le dessin prend beaucoup plus d'ampleur. On a un dos toilé qui joue avec ce côté vieille bande dessinée aussi qui est propre à Daniel Close. C'est que au début, je me dis, tiens, le dessin a faibli chez Daniel Close, c'est-à-dire que ça ne tient plus aussi bien, c'est parfois un peu mou, il y avait quelque chose qui me perturbait un peu, et on se rend compte qu'en fait, peut-être parce que le projet était de plus long cours, donc il fallait dessiner plus vite, il ne pouvait pas revenir sans arrêt à figer un peu son dessin, eh bien, il y a une vie dedans et une pulsation, et y compris une manière de déformer les personnages de manière imperceptible, qui se raccorde avec ce que dit ce personnage de Jack, qui fait beaucoup de sauts temporels et chaque saut dérègle un peu plus l'organisme. Il dit, mes cellules commencent à bouger, je sens que ça va pas très bien dans mon ventre, des choses comme ça. Et c'est comme si le dessin lui-même en était affecté. Donc il y a eu finalement une cohérence globale dans l'objet qui est assez passionnante.
Oui, c'est un vrai retour à ce moment narratif qu'il maîtrisait vraiment au moment de, entre Ghost World et David Boring. C'est-à-dire, il avait vraiment le souffle assez long, que je trouve il avait perdu un peu, bon, avec Le Rayon de la Mort, etc., qui sont des bons livres, mais qui n'ont pas cette longueur du roman graphique, en fait, parce que c'est quand même, ça reste quand même ça. Donc oui, il a le dessin est peut-être un peu plus chahuté, mais ça va effectivement très bien avec l'objet même, avec le projet même de l'histoire.
Et puis faut dire aussi, enfin, vous savez, mon goût assez modéré pour la bande dessinée, mais enfin, j'en lis évidemment régulièrement, je garde pas beaucoup d'albums, nous parlons dans cette émission, les derniers, que ce soit, c'était Richard Maguire et Rose Chaste, qui sont dans ma bibliothèque en bonne place, mais ce patience va les rejoindre, parce que il y a cette dimension, si Philippe Chevillier était là, il dirait que c'est quand même un patch-turner. Quand on commence cette histoire, on n'a pas du tout envie de la lâcher.
Oui.
C'est vraiment, enfin, je trouve que scénaristiquement, c'est quand même de très très haut niveau, et je pense que on n'a pas insisté sur cette dimension-là, et c'est vraiment raconter une histoire complexe, Daniel Kloves.
Tout à fait, et ça, moi j'ai l'impression que c'est quelque chose qui s'est un peu perdu avec la génération qui est venue après lui.
C'est bien pour ça que je souligne.
C'est-à-dire qu'à la fois Close, Burns et Chris Ware savent faire de vrais page-turner, comme vous le disiez. C'est-à-dire que les histoires tiennent et on a envie d'aller plus loin. La nouvelle génération a un peu perdu ça au profit de dessins peut-être plus complexes, plus travaillés, en tout cas au profit peut-être de choses faites de manière beaucoup plus compliquée, je dirais. Le récit est un peu, c'est beaucoup relâché. Peut-être un Dasho serait capable, mais il se perd dans beaucoup de formes. Alors que là, ce qui est intéressant chez ces gens-là, chez cette génération-là, c'est qu'elle a finalement peu produit, mais qu'elle a très bien produit quand même.
Et qu'elle continue à produire.
Que finalement, elle cache aussi ceux qui sont arrivés après. Enfin,
Antoine.
Et puis comme Daniel Kloves doit être un voyageur dans le temps lui-même, pour un livre qu'il a commencé il y a 5 ans, il y a des résonances très très étonnantes avec l'actualité immédiate, puisqu'il y a un personnage très trumpien dedans, qui passe son temps à la télévision pour se présenter manifestement à une élection importante.
Il est coiffé pareil.
À parler du déclin de l'Amérique, de on est en train de tout perdre, c'est atroce, etc. Et dont la vie personnelle cache des secrets presque aussi inavouables que ceux de Donald Trump.
Moi, vous parlez de propos de vestiaire, Antoine, c'est pas très sympathique. Et il y en a quelques-uns concernant ce personnage, en effet, dans Patience, de Daniel Kloves, publié chez Cornelius, traduction Éric Moreau. Et avant de conclure tout à fait cette émission, le jeu de la dispute, Lucine Comeau, avec d'abord un rappel du jeu d'hier au soir.
La question était, l'école du Frénois a ouvert en 1997 dans un bâtiment entièrement rénové. Qui est l'architecte qui l'a dessiné? Et la réponse est Bernard Tchoumi.
Ce soir, nous faisons gagner des invitations pour une autre exposition, House Life. C'est jusqu'au 29 janvier prochain au Musée des Arts Décoratifs et du Design de Bordeaux. Quelle est donc la question, Lucille?
Alors, ce musée est installé dans un hôtel particulier qui fut d'abord la maison d'un conseiller au Parlement, Pierre de Raymond de Lalande. Avant de devenir un musée, il eut à la fin du 19e siècle une autre fonction, laquelle?
Oui, ça c'est de la question, Antoine Guillaume. Alors là, jamais fait aussi bien. C'est votre maîtresse, au sens, comme vous l'avez dit, maître tout à l'heure. Votre réponse à envoyer avec vos coordonnées postales par courriel à auditeurfc@radiofrance.com. Et ainsi s'achève la dispute de ce soir. Merci à vous, Lucille Comeau, Antoine Guillaume, Joseph Gosten, d'y avoir pris part avec moi. Toutes les informations sur cette émission sont à retrouver sur notre site internet franceculture.fr à la page de la dispute. Un site sur lequel on peut également réécouter ou podcaster nos émissions, un site sur lequel on peut aussi nous écrire. Il y a bien sûr un podcast particulier pour le petit salon de Lucille Comeau. Merci à l'équipe qui prépare nos émissions, Virginie Leduo, Josué Morel et Boris Pinault. Prise de son assurée ce soir par Cédric Châtelus, réalisation Daniel Finot. Je vous donne rendez-vous lundi à 21h pour une dispute consacrée au spectacle vivant en compagnie de Marie-Josée Sirache et Joël Gaillot. À notre votre affiche, le Bac 68, deux mise en scène et avec Philippe Cobert au théâtre de l'Athénée Louis Jouvet, puis Earring, deux et mise en scène Amir Reza Kouestani au théâtre de la Bastille. Nous évoquerons aussi plus rapidement la compagnie de cirque Sasséo et son cabaret de poche et Gros Câlin d'Émile Ajar, mise en scène Hélène Maton. Lucille Comeau, elle, passera un coup de fil à Dominique Pitoisé pour parler de la mise en scène de sa mise en scène de la résistible Ascension d'Arturo Houé. Tout cela, c'est pour lundi. Avant cela, vos programmes se poursuivent sur France Culture. Dans quelques instants, le journal de la rédaction.